Il y en a un autre auteur qui dit, ben voilà, il y a des algorithmes autour de nous. Vous voyez ce que c'est que les algorithmes, hein, la manière dont la technique intelligence artificielle repère enfin, statistiquement ce dont nous avons besoin ou nous pourrions avoir besoin. Et évidemment, ces algorithmes sont en train potentiellement de nous influencer parce que, voilà. Mais c'est pas parce qu'elles ne nous influencent pas parce qu'elles manipulent directement notre cerveau. Ils nous influencent parce qu'ils nous indiquent les attentes de comportements qui sont celles de notre monde et que nous voudrions avoir, et que finalement, il y a une pression par l'algorithme, mais ensuite par les gens qui sont influencés par l'algorithme autour de nous, pour que nous ayons telle ou telle attente ou telle manière de vivre. Et on voit bien que pour arriver à ça, pour résister à toutes ces pressions, il y a quelque chose de l'ordre d'un espace intime, d'une autonomie de la conscience, qui doit permettre de prendre une distance critique et de discerner. Enfin, au moins, ça le permet si on a pris soin de cet espace intime. Et puis que cet espace intime, il est habité de ressources, de sens, et il est hospitalier, c'est-à-dire il n'est pas rempli de ressentiments, de violence, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas envie d'y aller. Voilà. Et à ces conditions-là, on retrouve dans cet espace intime quelque chose de l'ordre de ressources spirituelles et éthiques, aussi d'un courage d'être et d'agir. Et puis, bien sûr, le dialogue avec d'autres peut nous aider. J'aurais presque envie de dire que c'est presque le débat qui nous aide. Parce que le dialogue avec ceux qui pensent comme nous, ce que, parenthèse, favorise la technique et Internet, ça laisse souvent beaucoup d'implicites dans nos complicités. Alors que dans le débat, on est obligé de se formuler les affaires et de se les clarifier. La foi chrétienne propose-t-elle aussi du sens alternatif ? Alors, elle est intéressante déjà, pour prendre un des aspects, pour nous aider à gérer notre fragilité, parce que c'est toutes nos fragilités qui nous rendent dépendantes de la technique et que nous ne savons plus comment, à un moment, dire « je veux prendre du recul ». Et en lisant un texte déjà ancien de Thévenot, Xavier Thévenot, où il disait « c'est pas tant dans la foi que face à telle ou telle question, je me demande si je dois ou pas faire recours, je vais m'adosser à Dieu comme à la puissance divine. » Non, je m'adosse plutôt au Christ, parce que le Christ incarné, il a partagé ma vulnérabilité du corps ou la précarité des relations humaines. Et ce qui est intéressant, remarque Thévenot, c'est que là où l'homme aurait tendance à se déshumaniser, d'ailleurs, précisément, j'ai revérifié ce qu'écrit Thévenot, c'est là où Adam veut se déshumaniser. Je pense que c'est une allusion au texte de la Genèse. Adam, il voudrait, quand est-ce qu'il veut se déshumaniser ? Quand il voudrait bien avoir la maîtrise de la vie ou la maîtrise de la connaissance. Vous voyez les fameux arbres. Là où l'homme veut se déshumaniser, trouve qu'il fout, c'est ça, et en fait il met la main sur quelque chose qui le déshumanise, ou quand il se déshumanise des fêtes, Jésus, lui, face à cette extrême vulnérabilité et cette extrême précarité, il s'humanise et il s'humanise par l'amour. Et il nous révèle au passage que s'il y a un manque à être ou un manque à faire qui nous est fondamental, c'est bien que notre capacité de croire, d'espérer et d'aimer demeure toujours fragile. Et qu'en s'étayant sur la figure du Christ, on peut retrouver quelque chose d'une liberté inédite qui nous est promise et qui nous est accessible à travers le Christ. Et on voit que même la fragilité ou le manque peut basculer du côté de la vie. Il prend l'exemple de l'accueil d'un enfant handicapé qui va basculer paradoxalement vers de la vie, ou encore quand on se prive de quelque chose qui pourtant est important. On pense à des couples qui vont consentir à rester inféconds, et Dieu sait que c'est grave pour un couple, de ne pas pouvoir mettre en une famille, en constatant que pour eux et dans ce qu'on leur propose comme technique d'assistance médicale à la procréation, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du déshumanisant, soit pour eux-mêmes, soit pour l'autre. Vous connaissez les questions des mères porteuses, entre guillemets, aujourd'hui. Voilà, et toute l'ambiguïté de ces pratiques pour les personnes. Si j'y renonce, pour ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour et du respect d'autrui. De fait, j'accepte de vivre quelque chose de l'ordre d'un inaccomplissement dans mon couple. Et le critère donc qui est donné, c'est la charité ou l'amour d'autrui, parce qu'elle donne du sens au-delà de le renoncement douloureux à la technique. Il y a autre chose aussi qui me paraît intéressant dans la figure du Christ, c'est que il conserve la capacité jusqu'au bout, si j'ose dire, de prendre soin des autres, d'écouter les autres. Vous savez, les fameux dialogues et paroles sur la croix, l'attention à sa mère, à Jean, etc. Et donc, ça nous dit quelque chose d'une capacité morale ou d'une capacité d'aimer de l'humain, même dans des situations d'extrême fragilité. Ce qui peut jouer vis-à-vis de grands malades, ce qui peut jouer aussi vis-à-vis des victimes, hein, aujourd'hui, enfin voilà, des gens qu'on penserait à terre, la figure du Christ nous dit, attendons, ces gens-là ont encore une capacité morale, une capacité d'aimer, eh bien ça va jouer sur la manière dont je me comporte avec ces personnes. Alors, dans le texte de Thévenot, c'est dans son livre de bioéthique, hein, et il dit, ben voilà, sur les questions de fin de vie, là où la logique technicienne, si j'ose dire, nous pousse seulement, et le seulement c'est important, hein, à réduire la souffrance à tout prix. Ça, la technique, elle va essayer elle présente des choses. Ben, Thévenot dit, moi, le fait de contempler le Christ en croix capable d'être créateur de liens, ça ne me rend pas seulement solidaire, dit-il, des indignes, hein, de ce qu'on considère dans une situation indigne, le métier, ça ne me rend pas seulement solidaire, et donc avec l'envie d'apaiser la souffrance, mais ça me donne un repère éthique. Le juste respect de la dignité de celui qui est affronté à la mort, ça consiste à l'aider à reconstituer, à maintenir des liens profondément humains. Vous voyez, le regard un peu différent, la souffrance, mais attention à ce qu'il... le maintien du lien dont nous a donné l'exemple du Christ, comment est-ce que je le favorise? Quand on regarde un peu la manière dont les contre-feux fonctionnent, ça n'est pas que ça enlève l'intérêt ou le poids d'un certain nombre d'arguments, de ce que permet la technique pour aider, mais ça donne d'autres arguments, d'autres points auxquels on est sensible, et c'est là que se joue cette liberté. C'est d'avoir plusieurs éléments en tension, et dans ces tensions de ce que je veux faire vivre ou vivre dans telle ou telle situation, ben voilà, c'est moi qui vais pondérer et voir jusqu'où est l'attitude qui, à tel moment, me paraît la plus ajustée. Et je n'ai pas une espèce d'automatisme d'une seule attitude qui soit juste. Deuxième étape, je ne suis pas encore en retard, ce qui est... Alors, deuxième point que je voulais aussi dire, c'est la technique et ce lien avec, l'économie ou le libéralisme politique et économique, parce que, entre autres, je l'ai regardé, parce que dans Laudato aussi, le lien est fait. Hein, c'est-à-dire que le pouvoir de la technique, c'est aussi le pouvoir libéraliste politique et économique. Et, pour essayer de voir comment ça fonctionne, j'ai pris aussi un autre auteur, Marc Cugnadi, hein, qui a travaillé là-dessus, et qui dit qu'il y a un peu deux manières dont la technique s'impose. Alors, d'abord, il y a le côté proprement économique. Hein. La technoscience et la recherche, c'est largement dépendant aujourd'hui du financement et de la stratégie commerciale des GAFA. Vous voyez ce que c'est que les GAFA, Google et compagnie. Bon, donc on a compris que les grands acteurs économiques, c'est eux qui tirent les ficelles. En même temps, dit-il, le libéralisme au sens large du terme, la culture libérale, peut avoir un impact à cause de ce qu'il appelle l'éthique libérale des droits et libertés individuelles, c'est-à-dire un peu le critère de discernement, c'est je peux tout faire du moment que les libertés individuelles ou les droits individuels sont conservés. Mais ça, finalement, ça confère une force au marché absolument immense, parce que du moment qu'en gros il y a la liberté de consentement, d'autonomie, je peux y aller, quoi. Et ça a donc un peu toutes les forces culturelles s'effacent devant cette éthique un peu imposée dans le cadre du marché. Et du coup, évidemment, c'est les règles du marché, c'est-à-dire nos vendeurs, qui nous imposent les progrès et les propositions de la vie bonne, comme dire, voilà. Sauf que quand on regarde ce que ça construit quand même ce que Cugnadi appelle un homo economicus, qui a deux versions, c'est l'homo l'humain consommateur et l'autre version, c'est l'humain entrepreneurial. Mais on finit par avoir voilà, une espèce d'idéal de l'humain économique qui passe à travers ceux qui sont, j'allais dire, à l'origine de l'économie aujourd'hui. Évidemment, on est au clair que nos, on l'a dit déjà, avec nos algorithmes qui déterminent statistiquement nos attentes, les unifient et finalement, attentes et comportements collectifs, ça va être adapté, permettre l'adaptation entre consommation et marché et finalement, on part complètement sur une rationalité purement économique. Or, on n'a pas obligatoirement envie de vivre dans cette société uniquement de consommateurs et d'entrepreneurs. Surtout, c'est repérable, c'est redoutable quand il y a un moment de récession économique. Hein, on voit actuellement, la manière dont des jeunes générations peuvent se ressentir, ressentir l'inhospitalité du monde des adultes. Quand ce n'est pas franchement la misère pour un certain nombre d'étudiants. Voilà. Donc, que faire? Quelles seraient les conditions d'une société qui, contre cette toute-puissance de l'économie, essaye d'être soutenante vis-à-vis des êtres humains et des vivants que nous sommes? Quand on pense à ce que c'est qu'une société accueillante par rapport à une société concurrentielle, on est quelquefois tributaire de notre culture. Et là, la philosophie du vivant qui m'a alerté à cause de sa diversité. Je vous annonce que nous sommes quand même assez massivement marqués par Darwin. On a tous donné à l'école, on a appris dès ce moment-là qu'il n'y a pas que la technique qui est un monde compliqué, la nature, c'est aussi un milieu de vie très concurrentiel. Et de fait, qui finit par sélectionner les modèles les plus performants. Au point d'ailleurs qu'on pense spontanément, en projetant ça sur la vie sociale, qu'il y a quand même besoin d'une éthique qui nous régule un peu tout ça. Il n'y a pas que la concurrence entre les espèces, il y a la concurrence entre les individus, il y a les concurrences entre les peuples, et il va falloir mettre des règles de justice pour calmer ça. Mais il y a d'autres manières de lire. De voir les vivants dans leur milieu de vie. Je tombais sur un autre auteur, alors je vais me louper dans la prononciation parce qu'il s'appelle Uexküll et je ne vous dis pas comment c'est écrit sur ma feuille. Il est éthologue, comme on dit, c'est-à-dire il travaille sur la manière dont vivent les animaux, essayer de comprendre. Et pour lui, ce qui fait qu'un être vivant se sent bien dans son milieu, en fait, chaque être vivant, quelque part, construit ce milieu en fonction de ce qui est nécessaire à la vie de son espèce. Et il crée un milieu au sein d'un monde géographique où il y a plein d'espèces différentes qui cohabitent. Alors, il nous décrit des choses. Alors, il est très connu pour le passage où il nous décrit l'univers de la tique. Vous voyez ce que c'est qu'une tique ? Ça reste toute sa vie, si j'ose dire, accroché dans un truc, et puis à un moment, il y a un animal qui passe en dessous, paf, la tique dégringole, etc. Ça ne donne pas du tout la même temporalité. Ce que la tique perçoit de l'univers, c'est quand même très limité, mais très ciblé pour ce qu'elle est, etc. Bref, l'être humain qui vit à côté ne vit pas dans le même monde. Alors, Uexküll dit, dans ce monde-là, le risque essentiel, c'est pas la concurrence entre les espèces, parce que, quelquefois, l'intérêt est divergent. Quand il n'est pas complémentaire, quand le ver de terre ne s'occupe pas d'aérer avec intelligence la terre pour le cultivateur qui débarque derrière. Mais par contre, le risque, c'est si je ne connais tellement peu le milieu de l'autre et ses besoins spécifiques que, par inadvertance, je vais l'empêcher de vivre. Si ce que je mets dans mon champ tue tous mes vers de terre, il y aurait un problème. Voilà, donc... si je fais la transposition dans une société, ce qui devient primordial, c'est l'écoute et l'hospitalité réciproque entre différents êtres, pour le moment humains, si je suis dans la société humaine. Ça ne donne pas du tout le même type de raisonnement. Si je suis dans un moment de tension géopolitique, Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le temps de se poser la question de la dissuasion, etc. On s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas du tout à notre idéal de la dissuasion, puis on va baisser les armements, ça ne marche pas du tout. Parce que dans un monde à la Darwin, j'ai intérêt à avoir le dernier type d'armes. Je ne vous dis pas ce que ça donne au niveau des ventes d'armes. Il faut toujours que j'achète le dernier cri. On est en plein dedans, là, en ce moment. Hein. Toute l'Europe se réarme. Si je suis dans un monde à la Wexcule, je suis plutôt dans une réflexion géopolitique en me disant, si j'arrive à sortir de la guerre ou à prévenir une guerre suivante, ce sera sûrement en commençant par penser les conditions pour la promotion de la paix et d'arriver à ce que tout le monde se sente respecté dans ces différents lieux culturels. C'est pas du tout. Mais on voit bien, hein, les deux axes. Si vous êtes un peu attentif, vous devez vous dire qu'il y a besoin des deux. C'est bien un peu le problème. Il y a ceux qui sont extrêmement sensibles, les auteurs, ils sont sensibles à cette idée que finalement, une société à la Darwin, ça ne tient pas. Une société technicienne à la puissance, ça ne tient pas. Quelqu'un comme Ellul, on lui a sorti un ouvrage posthume qui s'appelle « Théologie et technique » où les deux Ellul se rencontrent, le théologien et l'étudiant de la technique, et lui fait le choix de la non-puissance. Ce n'est pas la décroissance économique, c'est la non-puissance technique qui justifie d'ailleurs théologiquement ou non du choix de la non-puissance par Dieu lui-même. Voilà. Et voilà, il y a une ascèse qui est une spiritualité chez Ellul. Mais quand on essaye de fonctionner avec ce type de spiritualité, on est quand même pris par moment par l'idée que je ne suis pas un homme qui doit cohabiter avec une tique, si j'ose dire, mais nous sommes plusieurs, et dans une population, dès qu'on est un peu nombreux, ça réintroduit la concurrence. Et si vous mettez un peu de pénurie, ça va, on a compris ces derniers temps ce que ça veut dire que l'effet de la pénurie sur la foire d'empoigne pour récupérer plutôt que le voisin ce dont j'ai besoin, et donc on va bien avoir besoin un minimum de régulation pour que tout le monde ait accès au minimum pour vivre. Et donc on a un peu l'idée que faut associer cette pensée de l'hospitalité réciproque entre les vivants, que j'ai mis au nom d'Exul, et puis le respect de la justice dans le partage des ressources et dans le partage des puissances, si j'ose dire, qui serait chez Darwin. Eh bien, on retrouve finalement, en regardant le vivant autour de nous et en l'analysant avec des clés que j'ai plutôt pris dans le monde sciences humaines et philosophie, on retrouve de manière empirique quelque chose qui me fait comprendre une phrase du pape François qui dit s'il y a une ascèse, il faut qu'elle nous apprenne pas seulement à renoncer. Je ne peux pas avoir tout ce que je veux, mais on m'a dit qu'il fallait réguler les choses, mais aussi à donner. La phrase du pape François est dans l'autre sens, d'ailleurs. On apprend à donner et pas simplement à renoncer. Hein, on apprend à tenir cette hospitalité réciproque entre les vivants et cette connaissance, mais aussi à réguler nos besoins les uns les autres pour pouvoir vivre ensemble. Il faut tenir les deux choses à la fois. Et ça donne une clé de discernement par rapport à la technique, c'est de se demander à quoi elle nous sert. Est-ce qu'elle nous sert à prendre le pas sur l'autre? Parce que la technique, elle peut aussi être au service d'actions solidaires. Hein, la technique, c'est aussi le partage des connaissances. On peut dire tout ce qu'on veut sur Wikipédia, mais n'empêche que, voilà. Et ça fonctionne à ce niveau-là. C'est aussi un partage de ressources. Des techniques de financement solidaires, ponctuelles, se sont créées. C'est le partage des compétences, c'est la mise en relation de personnes pour faire telle ou telle action. Donc en fait, la finalité de la technique est vraiment à prendre en compte en travaillant sur quel type de vivre ensemble on veut promouvoir, à peu près à tous les niveaux.